Bon, on va continuer notre étude sur Deutéronome, la deuxième partie. Dans la semaine dernière, on avait regardé ce qu'on voit dans l'introduction d'habitude. Et ce soir, on va regarder un petit peu le message central qu'il y a dans le livre de Deutéronome. Alors, le message central du livre de Deutéronome est la fidélité de Dieu dans ses relations avec le peuple d'Israël, malgré les infidélités d'Israël. Dieu a demeuré, il demeure et demeurera fidèle à ses promesses, à son dessein et à son peuple. Ses relations sont toujours empreintes de grâce, de sagesse et aussi de justice. Le deuxième point qu'on va regarder, c'est les 6 choses de base qu'on trouve dans le livre du Deutéronome. Alors, ces 6 choses de base sont le fait de base, la vérité de base, la demande de base, l'engagement de base, les différences de base et le choix de base. Alors, on va les regarder un par un. On va commencer par le fait de base. Alors, le fait de base, il est mentionné dans Deutéronome chapitre 6, versets 4 et 5. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alors, ça, c'est une des idées fondamentales, une chose de base du livre. Une autre, c'est la vérité de base, qu'on lit dans Deutéronome, chapitre 6, verset 23. Et cette vérité-là, c'est que l'Éternel est puissant, il est gracieux et il est fidèle. Ça dit au verset 23, « Et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. » Donc, la vérité de base est composée de 3 éléments. Un fait, il nous a fait sortir de là, l'Égypte. Alors, nous parlons ici de l'omnipotence de Dieu. Et tout cela avait été fait pour un but, pour nous amener dans le pays, Canaan. Parlons ici de la grâce de Dieu et pour une raison qu'il avait juré à nos pères de nous donner. Nous parlons ici de la fidélité de Dieu. La troisième chose de base, c'est la demande de base. Alors, vraiment, la demande de base, c'est de craindre l'Éternel et d'obéir, l'obéissance. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Donc, vraiment, la demande de base du livre de Deutéronome, c'est de craindre l'Éternel et de lui obéir. L'obéissance inclut 5 parties. Craindre l'Éternel, marcher dans ses voies, l'aimer, le servir et observer ses commandements. Et il y a 3 raisons pour cela. À cause de ce qu'il a fait pour nous, pour ce qu'il est en lui-même et à cause aussi de la perfection de sa loi. On le retrouve dans le Nouveau Testament, dans Jean 14, versets 21-23. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu nous feras connaître à nous et non au monde? » Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. » On est rendu au 4e chose de base, l'engagement de base. Deutéronome, chapitre 4, versets 27 à 31. « Dieu n'oublie pas ses promesses, et il les accomplit. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous amènera. Et là, Vous servirez les dieux, ouvrage de main d'homme, du bois et de la pierre qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu et que tu le trouveras si tu cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu et tu écouteras sa voix. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu de miséricorde qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a jurée. Donc, c'est quelque chose d'intéressant de se souvenir que Dieu n'oublie jamais ses promesses et qu'il les accomplit. L'Éternel fait ici mention de l'alliance abrahamique qui est mentionnée dans le Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Est vraiment basée sur une promesse divine. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Deutéronome chapitre 30, verset 20. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Donc l'alliance abrahamique est donc celle de derrière, en dehors et au-delà de l'alliance mosaïque. Galates chapitre 3, verset 16. Alors, on apprend dans Galates chapitre 3, verset 16, que la promesse, la postérité d'Abraham, dont on a lu tantôt dans Genèse 12, c'est Christ et à ceux qui sont en lui, qui sont en Christ. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. On est rendu aux cinquième choses de base, les différences de base. Donc, c'est vraiment l'emphase ici passe de la place à la personne. Deutéronome chapitre 12, versets 10 à 14. Mais vous passerez le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous mettra en possession. Il vous donnera du repos après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent et vous vous établirez en sécurité. Alors, il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. C'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes, et le Lévite qui sera dans vos portes, car il n'y aura ni part ni héritage avec vous. Garde-toi d'offrir tes holocaustes dans tous les lieux où tu verras, mais tu offriras tes holocaustes au lieu que l'Éternel choisira dans l'une de tes tribus, et c'est là que tu feras ce que je t'ordonne. Donc, dans l'Ancien Testament, l'emphase de l'adoration était un lieu. Ça encourageait, bien entendu, l'unité nationale. Si l'endroit où ils adoraient était un lieu, avec les gens se rendent dans ce lieu-là, donc ça créait une unité dans la nation d'Israël. Dans le Nouveau Testament, l'emphase change. Au lieu d'être un lieu, c'est une personne. Alors, dans le Nouveau Testament, on le voit dans Jean chapitre 4, versets 24 à 26. « Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Alors on voit vraiment l'Ancien Testament, l'emphase était véritablement sur le lieu, Jérusalem. Il se ressemblait à Jérusalem, ça devenait un lieu d'unité nationale. Dans le Nouveau Testament, ça change, au lieu d'être un lieu, c'est une personne, c'est Christ. Très intéressant. Et le sixième point, c'est vraiment le choix de base, donc la loi versus la grâce. Troisième point qu'on va regarder, le personnage de Moïse, bien important dans le livre de Deutéronome. Donc, Moïse a vécu pendant 120 ans. Sa vie peut être divisée en trois périodes égales de 40 ans. Intéressant de noter ça, 120 ans, trois périodes exactement de 40 ans dans sa vie. Il y a eu d'abord la partie de sa vie où il a été prince en Égypte. Il était le garçon, le fils adopté de la fille de Pharaon. Alors, il était vraiment socialement et économiquement, il était dans le haut de la pyramide, comme on pourrait dire. Alors, acte 7, versets 23 et 20 à 25, il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait et il prenait sa défense. Il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Mais ils ne comprirent pas. Donc, il se dit bien dans le verset ici, il avait 40 ans lorsqu'il s'est décidé de travailler pour le peuple d'Égypte, pour délivrer le peuple d'Égypte. Après ça, il est parti, il a eu peur, il s'est sauvé. On se souvient qu'il est allé voir, il est devenu un berger de Madian. Et ça nous est rappelé dans acte 7, versets 29 et 30. À cette parole, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays de Madian où il engendra deux fils. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï dans la flamme d'un buisson de feu. Là, on voit très bien les coupures. Là. 40 ans, 40 ans, 40 ans. Alors, la dernière partie de sa vie a été leader d'Israël. Donc, il a passé du prince d'Égypte à berger de Madian. Ensuite, il est devenu le leader d'Israël. Moïse adressa encore ses paroles à tout Israël. « Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans. Je ne pourrai plus sortir et entrer, et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. » Très intéressant de noter cette affaire-là. On voit de quelle façon Dieu travaille dans nos propres vies. Il y a des périodes. Et je me souviens d'une fois d'une autre affaire que j'avais déjà lue. C'était M. Wilson, un des plus grands... traducteur de la Bible, il avait demandé au Seigneur dans une prière, « Seigneur, j'aimerais ça que tu m'accordes 15 ans pour apprendre les langues, pour savoir comment traduire la Bible. » Il dit, « J'aimerais ça que tu m'accordes un autre 15 ans pour étudier la Bible en profondeur, puis un autre 15 ans pour te servir. » Puis, ce personnage-là, il a vécu au 20e siècle, nommé Wilson, un homme d'une culture théologique énorme, le Seigneur lui a exactement donné ça. Trois périodes de 15 ans. C'est spécial. Alors, on voit que c'est pas que... Puis, je suis pas mal certain que le Seigneur fait la même chose dans nos vies, à nous autres. Alors, le caractère de Moïse, bien entendu, est admirable. Il est un grand personnage, l'un des plus grands de toute la Bible et de l'histoire. Pas pour rien que chez les Juifs, Moïse, c'est le personnage. Alors, il était un type remarquable de Christ. On ne rentre pas dans les détails de ce que c'est un type et un antitype ce soir, là, mais Il reste qu'un type, ça représente Christ de quelque façon que ce soit, sur bien des facettes. Alors, si on rentrerait dans l'étude du type, de la typologie de Moïse par rapport à Christ, on en aurait pour des mois et des mois à étudier ça. C'est très, très riche. Alors, c'est un caractère dans lequel toutes les vertus, les grâces sont balancées, harmonieuses, en faisant un caractère d'une rare beauté et d'une rare noblesse. L'on peut admirer sa fermeté, sa persévérance, son désintéressement, son patriotisme, sa confiance en Dieu, sa douceur, son humilité et l'oubli de soi. Alors, on aurait beaucoup de choses à regarder dans la vie de Moïse pour l'imiter. C'est beaucoup de choses. Il est mort à 120 ans. Deutéronome 34, verset 7, ça nous dit « Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. » Alors, on peut dire que c'était un homme qui était gâté par le Seigneur. Rendu à 120, il était encore en forme. Moïse fut enseveli par l'Éternel lui-même. Ça, c'est très intéressant aussi comme idée par rapport à la question de l'enterrement et par rapport à la question qu'on moderne aujourd'hui de faire brûler son corps. Quand vous regardez, Moïse fut enseveli par l'Éternel lui-même. Deutéronome, chapitre 34, verset 6. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Et Jude 1, verset 9. Or l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit « Que le Seigneur te réprime ». Alors, quelque part, l'ange était... très important de voir comment l'archange Michel parle au diable et il lui parle pas d'une façon que le Seigneur te réprime. Il laisse ça au Seigneur. Quatrième chose à remarquer par rapport à ce livre-là, c'est qu'il est divisé en discours. Alors, depuis bien longtemps, le Seigneur a été compris. Le Deutéronome, c'est-à-dire, a été compris comme un ensemble de trois discours adressés par Moïse à Israël dans la plaine de Moab. Deutéronome, chapitre 1, verset 5, « De l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse commença à expliquer cette loi et dit. » Alors, cette expression « de l'autre côté du Jourdain » doit être expliquée. « Pour Abraham et les Cananéens, cela signifiait la contrée située à l'est du fleuve. Le peuple avait l'impression d'être de l'autre côté du Jourdain en se trouvant hors de la terre promise. Toutefois, le fleuve n'ayant pas encore été traversé, cette phrase ambiguë est complétée de façon réitérée par des expressions telles que « dans le pays de Moab ». Donc, c'est important, si on analyse le livre ou qu'on le lit, de voir que c'est vraiment trois discours. Parce que ça va t'aider à comprendre quand tu vas voir les coupures, puis qu'est-ce qui se dit dans le discours, si tu analyses le discours. Alors, le premier discours, c'est du chapitre 1, verset 6, aller jusqu'au chapitre 4, verset 43. Alors, c'est le rappel de l'histoire du peuple. On vous a dit, quand on avait lu la semaine dernière, le plan... Il regardait le passé, il regardait l'avenir. Alors, c'est ça qu'on voit là. C'est le rappel de l'histoire du peuple depuis l'alliance conclue au Sinaï avec la génération précédente qui doit être un motif d'obéissance aux lois de l'Éternel. Deuxième discours qui part du chapitre 4, verset 44, jusqu'au chapitre 26, verset 19. Alors, c'est la récapitulation des ordonnances concernant le peuple, avec insistance sur la spiritualité des lois et l'exhortation constante à les observer. Ces statuts sont en général des lois positives impliquant des droits et des devoirs. Ou bien il s'agit de lois que l'homme, par dépravation naturelle, pourrait ignorer. Ces dernières basée sur des motifs religieux, décrète la fondation de villes de refuge pour l'homicide involontaire, l'exclusion de l'idolâtrie, les égards pour les plus faibles et pour les classes les moins privilégiées et la communauté. Bien entendu, on pourrait étudier ça beaucoup plus en détail que ça, les divisions, là. Mais dans le fond, c'est important de voir que ces trois discours-là sont dans le livre. Et la troisième discours, c'est à partir du chapitre 27 et 28. Alors, le chapitre 27 et 28 sont les conclusions, la conclusion de ce qui précède. La recommandation d'inscrire la loi sur des pierres enduites de chaux qui seront dressées sur le mont Ébal. Ensuite, des bénédictions et des malédictions consécutives à l'obéissance et à la désobéissance. Cette grandiose proclamation est immédiatement suivie d'une brève allocution, les chapitres 29 et 30, prononcée lors de la ratification d'un renouvellement de l'Alliance. Ce pacte fut consigné dans un livre, de même que le pacte précédent conclu à Horeb, c'est-à-dire au Sinaï. Après ces trois discours, qui forment l'essentiel du livre de Deutéronome, Moïse désigna publiquement Josué pour son successeur et lui conféra une mission précise. Puis il remit cette loi par écrit aux sacrificateurs et les chargea de la lire publiquement aux Israélites. Il se rendit avec Josué dans le tabernacle afin que l'Éternel revêtît Josué de ses fonctions. Dans la tente d'assignation, Dieu inspira à Moïse un cantique pour le peuple. On peut le voir dans le chapitre 31, versets 16 à 23. Moïse élabora et écrivit le cantique. Puis il ordonna aux Lévites, porteurs de l'arche, de déposer le livre complet de la loi à côté de l'arche comme témoignage. Moïse commanda aux anciens et aux officiers de se réunir pour entendre et apprendre ce cantique qu'il répéta en public. Les adieux de Moïse sont relatés du chapitre 32, verset 48 à 33, 29, et le récit de sa mort se trouve comme un post-scriptum au chapitre 34. Alors, le livre de Deutéronome, c'est un livre extrêmement riche à étudier, et il y a beaucoup de choses à apprendre dans ce livre-là. Cinquième point qu'on va regarder, c'est la révélation progressive de Dieu et de l'homme. Alors, pourquoi j'ai mis ça là? C'est parce que on arrive à la fin des cinq premiers livres de la Bible, le Pentateuque, et c'est important de voir que la révélation, elle s'est faite de façon progressive depuis le début, depuis la Genèse à venir jusqu'à Deutéronome. Quand vous regardez le petit tableau qu'il y a à l'arrière, vous avez la révélation progressive à la fois de deux choses. Dans une colonne, vous avez la révélation progressive de Dieu lui-même, et dans la colonne de droite, vous avez la révélation progressive de l'homme. Donc, dans le livre de la Genèse, vous avez l'aspect de la souveraineté de Dieu qui est développé. Et l'autre chose qui est développée plutôt par rapport à l'homme, dans le livre de la Genèse, c'est la ruine de l'homme par le péché. Ensuite, vous avez l'Exode, où on nous montre la puissance de Dieu, où Dieu a dit à Moïse, « Va dire à Pharaon qu'il te laisse sortir et que vous puissiez m'adorer. » Et on a vu que Pharaon s'opposait. Qu'est-ce qu'on voit dans ce livre-là? On ne voit que la puissance de Dieu qui s'exerce sur Pharaon pour l'obliger. Autrement dit, on voit que Dieu est puissant. Quand il dit « Mon peuple va sortir », il va sortir. Et ce qu'on voit aussi dans l'aspect humain du livre de l'Exode, on voit la rédemption par le sang et la puissance d'émancipation du Seigneur. La rédemption par le sang, on la voit dans quel chapitre? L'intro, ouais. La Pâque. Ouais. Alors, c'est important de voir à la fois le Seigneur travaille à révéler deux choses dans chacun des livres. Et il y a une progression. Il faut la voir. Si on la voit dans Lévitique, la partie de Dieu ou la, L'attribut de Dieu qu'on voit le plus, qui est développé le plus, c'est celui de sa sainteté. Et l'aspect de l'homme, c'est la communion par l'expiation. Parce qu'on voit les différents sacrifices, et c'est par l'expiation que le Seigneur s'occupe de sanctifier son peuple. Dans le livre des Nombres, on avait vu que la chose qui nous est révélée dans ce livre-là, l'aspect des caractéristiques de Dieu, ou du caractère de Dieu, c'est à la fois sa bonté et sa sévérité. Et du côté de ce qu'on apprend progressivement sur l'homme, c'est la direction par la volonté de Dieu. Autrement dit, c'est Dieu qui dirige le peuple à travers tout son parcours. Dans ce temps-là, c'était dans le désert et tout ça. Dieu il s'occupait de les diriger, mais dans le fond, il fait encore la même chose. Alors, quand on regarde à la fois la progression dans la colonne de gauche, dans la colonne de droite, il y a vraiment une progression. Et il faut vraiment la saisir. Et, là, ça, le livre, les cinq premiers livres de la Bible, que pour les Juifs, qui est assez important, on comprend un peu plus pourquoi. Et le dernier, c'est le livre de Deutéronome qu'on vient de terminer. Et lui, il parle surtout de la fidélité de Dieu. À partir du camp qu'ils ont sorti d'Égypte, à venir jusqu'à avant qu'ils rentrent dans la terre promise, Dieu démontre une caractéristique qu'il est fidèle à accomplir ces choses. Et quant au côté de l'homme qu'on apprend dans Deutéronome, c'est que la destination... on apprend sur la destination finale, mais par la fidélité de Dieu. Alors, une application qu'on pourrait en faire beaucoup, mais une que j'ai notée. Implorons le Seigneur de nous donner le vouloir et le faire pour stimuler notre étude du Pentateuque. Pentateuque, c'est les cinq premiers livres. Pas pour rien que les Juifs considéraient que c'est assez important. Pour eux, la loi, c'est cette partie-là. Là. Alors, il y a énormément de choses à étudier dans ces cinq livres-là et pas mal tout le développement de ce qui va venir après est mentionné dans ces livres-là. Alors, que l'Éternel soit béni, loué et adoré à tout jamais. Amen.